Prions encore. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Denis a parlé de champion de course. Et comment ne pas parler un peu de champion aussi ? En ce moment, vous allumez la radio, la télé, n'importe, vous n'avez que ça, plein de champions. Alors je vous propose de suivre quelques champions de la Bible, quelques champions de Dieu. D'abord un état des lieux, Genèse 6, 5 à 9, cela commence mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Un premier champion, si vous voulez, Noé. Son père, Lémec, était prophétique en lui donnant ce nom. Il a dit quand Noé est né, « Celui-ci nous soulagera, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Les trois lettres Noé veulent dire ça. « Celui-ci soulagera, consolera du travail pénible à cause de cette terre qui est maudite par Dieu. » Le défi de Noé, ce n'est pas juste quelques prises de judo, c'est un chantier gigantesque. Construire une arche, un bateau de dimension inégalée jusqu'à la fin du 19e, début 20e siècle. 100 ans de travail par la foi. Dieu a annoncé un déluge, une pluie diluvienne et une montée des eaux qui couvrirait toute la surface de la terre et qui détruirait toute vie terrestre. Et jusqu'à ce jour-là, la pluie n'existait pas sur la terre. Donc, tout le monde était incrédule. Et quand Dieu a annoncé cela à Noé, il fallait de la foi. Il est dit un peu plus tôt, lors de la création, que la vapeur d'eau montait et arrosait les plantes. C'était comme sous une serre. Et donc, Noé a construit pendant 100 ans sous les railleries de ses contemporains. Et nous allons juste jeter un coup d'œil de ce que Jésus dit par rapport à ça dans Matthieu 24. Les versets 37 à 39, où il nous est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus croyait à cette histoire de Noé. Déjà ça, c'est une question aujourd'hui, cette histoire de l'arche. Qui croit encore dans notre monde ? Un bateau aux dimensions, aux matériaux, à l'aménagement intérieur et extérieur inspiré par Dieu. Il y avait juste une petite fenêtre tout en haut et tout le reste était fermé. Et des experts ont dit que c'était les dimensions idéales, que ce bateau était insubmersible. Ce n'était pas un Titanic, les vagues, les tsunamis pouvaient passer dessus. Il tenait la mer. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a obéi, il a été un constructeur fidèle. Il a cru que le déluge vient, que l'arche est la solution, et que les animaux, parce qu'aussi c'était un défi, entreraient d'eux-mêmes deux par deux. Essayer de tirer des serpents ou des éléphants ou des rhinos ou des hippopotames et je ne sais quoi d'autre, et de les amener. Hein. Les enfants, parfois les petites filles, quand elles sont chez nous, elles attrapent des canards, là ça va. Hein. Mais essayer toujours de courir après ces monstres, et Dieu les a fait venir, les a appelés. Un couple de chaque. Et Noé a eu la foi. Pour Dieu, Noé méritait la médaille d'or de la justice et de l'intégrité, et nous, nous lui donnerions la médaille d'or de la persévérance et de la foi. Hein? Dieu a dit qu'il était intègre et il marchait selon Dieu. Il marchait avec Dieu dans son époque. Donc, nous avons un premier champion, Noé. Quelqu'un qui vivait non loin de Noé, qui était son grand-père, était un autre champion, mais seulement par sa durée de vie, sa longévité. Vous connaissez la personne qui a pris le plus d'années sur cette terre ? Mathusalem, Méthusalem, comme vous voulez, hein. Methushalem. 969 années. C'est formidable. Et c'est le fils d'Enoch, celui qui a été enlevé. On n'est pas loin, hein. Enoch c'était un héros. Enoch a eu Méthusalem et d'autres enfants, mais lui, il a été enlevé par le Seigneur parce qu'il était fidèle. Méthusalem engendre Lémec, et Lémec est le père de Noé, c'est lui qui lui a donné ce nom. Pour l'histoire, le père et le grand-père de Noé sont morts aux environs du déluge. Si vous prenez la Bible, il avait tel ou tel âge, et ainsi de suite. Dans les 3-4 années autour du déluge, c'était leur mort. On peut attribuer à Methusalem ou Methushala la médaille d'or de la longévité, mais c'est l'Éternel qui lui a donné ses jours, ce n'était pas un mérite à lui. Juste pour l'histoire, Jéred, le père d'Enoch, donc l'arrière-grand-père, n'est pas loin du record. Lui, c'est la médaille d'argent, il était à 962 ans selon la Bible. Donc il ne manquait que 7 années et il aurait... Mais personne n'est jamais arrivé à 1000 ans, vous voyez. Donc, ce matin, on distribue un peu de médailles. C'en est d'autres, mais voilà. J'ai pensé à un troisième personnage, Moïse. Champion de la patience. Nombre 12, verset 3, il est dit, « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Donc ça, c'est dans Nombre 12, 3. Et cela est dit au moment où son frère, Aaron, et sa sœur, Myriam, ou Marie, l'accusaient devant le peuple et dénigraient son rôle de berger pour Israël. Quand les deux voulaient liguer le reste du peuple contre Moïse. Et là, il est dit que Moïse, c'était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, qui était ce Moïse ? Moïse voulait libérer Israël, alors qu'il vivait dans le palais du Pharaon, du joug de l'Égypte. Il a essayé de soulager un des Hébreux en tuant un Égyptien. Dans Exode 2, versets 11 et 12. Pendant 40 ans, il apprend la patience dans le désert jusqu'à son appel à délivrer Israël. D'abord, c'était l'humain qui voulait forcer, et après 40 ans d'études dans le désert, c'est là qu'il est appelé. Là, il n'était plus tellement chaud. Non, non, on voit quelqu'un d'autre, je ne sais même pas parler. Et puis, il faut qu'il y aille. La promesse de la libération ne s'accomplit pas très vite. Pharaon s'endurcit, multiplie les charges, pour Israël, Moïse doit venir 10 fois avec des plaies de plus en plus dévastatrices pour l'Égypte. Quelle pression sur les épaules de cet homme. Et il rencontre aussi des difficultés de la part des Israélites. Dans Exode 5, 21, ils disent « À cause de vous, les Égyptiens nous détestent encore plus et vont nous faire périr. » Pour un libérateur, ce n'était pas facile. Combien de fois, par la suite, Moïse s'interpose entre Dieu et le peuple pour arrêter un châtiment en cours ? Quand le feu de Dieu commence à consumer une extrémité du camp, Moïse implore. Quand les serpents brûlants s'attaquent à tous ceux, au peuple, il prie, on fait un serpent d'airain, et ceux qui ont la foi sont sauvés, et le mal s'arrête. Moïse s'interpose. Non, Seigneur, tu ne vas quand même pas faire à cause de ton nom. Tu ne vas quand même pas détruire ce peuple que tu as sorti d'Égypte. Donc même Aaron et Myriam contestent son ministère. Moïse fait confiance au Seigneur. Et là, il est même appelé à intercéder pour Myriam parce qu'elle a la lèpre à cause de cette anecdote dans Nombre 12. Et en plus, Moïse ne verra pas la terre promise, il ne la verra que de loin. Par-dessus le Jourdain qu'il ne peut pas franchir. Parce qu'à un moment, il a quand même craqué. Dans Deutéronome 34, les versets 5 à 7, il nous est dit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ça, c'était Moïse. Et les versets 10 à 12, il est dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Ça, c'était un homme. Médaille d'or de la patience et de la fidélité, on peut la lui attribuer. Est-ce que vous avez des propositions de champions qu'on pourrait trouver dans la Bible ? J'en ai encore. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? Je l'ai laissé de côté, mais c'est vrai. Samson, c'était un héros, un champion dans son style, hein, avec une mâchoire de bœuf ou d'âne. Il a causé un massacre parmi les Philistins. Voilà. J'ai pensé à David, bon, pas à toi, hein. C'est lui qui a parlé, mais c'est pas lui. David avait plusieurs cordes à son arc. Alors, je vais commencer par quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours. C'est un spécialiste de la musicothérapie. Hein? Ça, c'est David. La première chose que j'ai vue en suivant le fil de l'écriture. 1 Samuel 16, 23, il est dit « Lorsque l'esprit mauvais de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » C'est pas mal ça, hein ? Et ça donne à réfléchir. Quand il y a des attaques de l'ennemi, quand un esprit veut torturer. Les psaumes, David n'a pas chanté n'importe quoi. Il a chanté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il a chanté la louange. Un autre point, en tant que jeune berger, Dans 1 Samuel 17, les versets 34 à 37, c'est dans le contexte où il doit affronter le géant Goliath. Tout le monde tremblait devant ce géant. Et David dit, mais pourquoi vous tremblez? On rapporte ça à Saül, le roi, et puis le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu as à proposer? Et voilà ce que dit David au verset 34, 1 Samuel 17. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je l'attrapais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé l'ours et le lion. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours, me délivre de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Le voilà contre un géant. La terreur de tous les soldats de Saül. Quand il lançait son défi, tout le monde reculait. Hein? Lui, il attendait que quelqu'un se présente et tout le monde s'enfuyait. Et voilà un jeune garçon. Il y a de quoi trembler ou s'enfuir devant un tel destructeur. Mais David est ferme au verset 45. Il dit aux Philistins, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » Alexandre en a parlé récemment. David a juste fait ce qu'il avait à faire, sa part. Il a choisi un caillou, il a pris le caillou, l'a posé dans la fronde et l'a envoyé, il l'a lancé. Il a confié la trajectoire et la puissance au Dieu Tout-Puissant en qui il avait confiance. Parce que viser, son cœur devait battre, il est juste allé jusqu'au bout de ce que lui pouvait faire. Le géant est tombé mort. Et les défis que nous avons à faire, ce n'est pas nos capacités. Nous sommes trop faibles. Annoncer, lancer la parole, comme lui l'a lancé la pierre, et laisser faire l'Esprit Saint. David est donc un champion multiple, un auteur-compositeur, chanteur à la gloire de l'Éternel. Voyez le psaume 23, il y en a tellement de David. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était inspiré. Et ce qu'il chantait était à la gloire de Dieu. Nous le chantons encore aujourd'hui. Denis l'a cité tout à l'heure pour les anniversaires. Champion de lutte, le lion et l'ours, il faut le faire. Simplement, il ne voulait pas abandonner les brebis. Il s'est accroché. Il a attrapé, il a fait lâcher prise ou alors il a tué l'agresseur. Champion de tir, lancé de pierre. Champion de foi, au nom de l'Éternel, il comptait complètement sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui délivre. Vous êtes d'accord? Donc, on distribue des médailles ce matin, et comme au JO, il y a des champions qui sont plusieurs fois titrés. Un autre champion que j'ai relevé, c'est Élie. Il est champion multiple lui aussi. Dans 1 Roi 18 et 19, Élie agit, champion de la foi. Il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, qu'il héberge pendant la sécheresse et la famine de plus de 3 ans. À ma connaissance, il n'y a pas d'égal à son époque. ressusciter quelqu'un, ramener à la vie un enfant mort, c'était une première. Élie est aussi champion de la prière, seul contre 450 et 400 prophètes de Baal et d'Astarté. Eux prient et lui va prier. Humainement, ils ont l'avantage du nombre, 950 contre 1, si mon calcul est exact. Qui peut résister à ça? En plus, il a la foi, il leur laisse l'avantage. Il ne fait pas de calcul stratégique. Opérez en premier, allez-y. Si eux, ils gagnent, s'ils arrivent, lui, il est perdu. Ça, c'est sûr. Aucune chance. Ils ne le laisseront même pas essayer. Si le feu tombe et consume leur sacrifice, Élie, il est perdu. Il va se faire massacrer. Et le peuple ne l'aidera pas. Parce qu'il cloche, vous vous souvenez de cette parole? Il cloche sur les deux pieds. Hein. À droite, gauche, on n'a pas de choix. En plus, ils mouillent la mèche de cet holocauste, de son holocauste. Eux, ils ont loupé leur truc, mais alors lui, il a construit un autel, il a installé l'holocauste, il fait noyer l'autel avec des seaux d'eau, il fait creuser un fossé, il fait remplir le fossé, donc on ne peut pas tricher. À trois reprises, on met de l'eau et s'en remet au Seigneur. Versets 36 à 38 du chapitre 18, il est dit « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. » « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Quelle récompense pour Élie. Et surtout, il ne cherchait pas la récompense, il cherchait le salut d'Israël. Plus tard, on le voit qu'il est aussi champion de la persévérance. Juste après, 7 fois, il prie pour la pluie. L'anticyclone est installé depuis 3 ans. Il ne pleut pas, pas un nuage à l'horizon. Quand ça va s'arrêter? Il monte sur la montagne, il prie, il demande à son serviteur, « Vois-tu quelque chose ?» Rien. À la 5e fois, rien. À la 6e fois, rien. On a envie d'arrêter, non? Ce n'est pas la volonté de Dieu, certainement. Et la 7e fois, il y a un petit nuage. La persévérance. Et quelques instants après, il dit à Akab, « Attelle, la pluie vient, et dépêche-toi. » Il est aussi champion de la course rapide. Au verset 46, « Il court devant le char, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » C'est pas mal, ça. La pluie derrière, Akab avec son char, un char de combat, ce n'est pas des chevaux de trait, hein, et Élie qui court devant. Et il tient jusqu'à Jizréel. On pourrait comparer par rapport à ce qui se passe au JO. Et puis, au chapitre 19, les versets 5 à 8, là, malgré ses médailles, peut-être ça pèse, parce que Jézabel lui a promis de lui faire le même coup que lui l'a fait au prophète. Au chapitre 19, versets 5 à 8, il est dit « Il se coucha et s'endormit sous un genêt, il est déprimé. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bon, pour l'instant, les JO ne sont pas assez longs pour une marche forcée pareille. Hein, les JO durent 16 jours, hein, 17. Il marche 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Le repas qui lui a été remis par un ange a été suffisant. Mais il a quand même dû faire l'effort de marcher. Alors, donc, champion de la foi, champion de la prière, de la persévérance, de la course rapide et de la marche longue distance. On pourra une fois proposer ça. Sans repos, sans s'alimenter. Et toujours encore dans un état assez déprimé. Est-ce qu'il le méritait, ces médailles ? Et puis j'en ai encore trouvé un. Il y en a d'autres. Jonas. Ah, quel champion. Alors lui, je l'ai intitulé, premièrement, champion du légalisme. Dieu a dit, va à Ninive. Sa mission, c'est, préviens Ninive que sa méchanceté est connue de Dieu. C'est comme ça que dit la Bible. Pour Jonas, la destruction de Ninive est méritée, donc il ne faut pas les prévenir. Ça, c'est l'israélite, le chrétien parfois, légal. C'est comme ça, c'est arrêté, ils le méritent, tant pis pour eux. Parce qu'il dit à la fin, au verset 4, verset 2, « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et qui est riche en bonté et qui te repent du mal. » Il ne comprend pas ce Dieu. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi, une fois que les choses sont claires et nettes, pourquoi Dieu il veut quand même que ce peuple se repente, alors que c'est des païens? Donc, il est vraiment champion du légalisme. On s'attribue cette médaille aussi ? Parfois, on est comme ça. Et puis, à cause de son attitude, il devient champion en plongée en eau profonde. Hein ? Au chapitre 2, les versets 4 à 7a, il nous est dit Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il était dans les abysses. Et il n'avait pas de bouteille. Mais il était dans la bouteille. Tout à l'heure, je l'ai dit à Alexandre. Il respirait à l'intérieur de la bouteille. Mais lui aussi, cette histoire pour Jésus, ce n'était pas une fable. Hein, Jésus l'a cité quand il a dit « Vous avez l'exemple de Jonas ou le miracle de Jonas, pourquoi vous en donnerais-je un autre ?» Et puis, il est aussi champion du raid d'apnée. trois jours et trois nuits, au fond. Hein? Voilà, ça c'est Jonas. Je voulais vous encourager, avec ces différents champions, à revoir tout cela dans la Bible, parce qu'elle est très riche et on voit la fidélité de Dieu surtout. Hein? Certains étaient fidèles d'eux-mêmes, certains voulaient servir, d'autres ont été utilisés. Et tout le monde n'a pas un appel aussi clair que Élie, que Moïse, mais tous ont été serviteurs de Dieu, parfois malgré eux, comme Jonas. Dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29, il nous est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Noé n'était pas une star de son époque. Vous êtes d'accord? C'était quelqu'un qui vivait en marge. Tout au plus une attraction avec son chantier, un fou. Certainement, de temps en temps, les gens disaient « On retourne voir où il en est. » C'est tout ce qu'il avait comme gloire parmi les hommes. Et ils ont été surpris. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 24. Moïse était plus souvent accusé, contesté que reconnu par le peuple. On n'a pas de pain, on veut de la viande, on n'a pas d'eau. Et pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On était bien là-bas, ici, dans le désert, on souffre. Et puis les géants en face. Il était souvent accusé, mais c'était un héros de Dieu. Pour Goliath, David n'était qu'un beau petit gamin. Face à ses frères, à Goliath et à Saül, pour tous les frangins aussi, ils disaient « Mais le gamin, qu'est-ce qu'il veut là ?» Ils lui ont dit de se taire quand il a parlé aux autres soldats. « Toi, tu retournes, tu t'es encore barré là, tu ne voulais pas garder les moutons, tu veux faire ton fier. » Et quand Goliath l'a vu, il a vu un petit garçon, un joli petit garçon. C'est tout ce qu'il a vu. Et face à Saül, bon, il n'avait plus d'autres ressources. Il lui a mis son armure, mais presque peine perdue. Hein. Élie était l'homme à abattre pour Akab et Jézabel. L'accusation, c'est toi qui sèmes le trouble en Israël. Hein. Bon, Élie lui a dit, non, non, le problème c'est toi, hein, c'est pas moi. Mais ça fait mal quand même. Et quand Jézabel a remis une couche quelques jours après, il a quand même encaissé. Hein. Jonas a dû être viré par-dessus bord pour apaiser la tempête. Hein? Et c'est lui qui a donné les directives. Le responsable, c'est moi. Hein? Vous me jetez à la mer et c'est bon pour vous. Et dans Hébreux 11, les versets 32 à 40, l'auteur, on pense que c'est Paul, a dit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, dont David a parlé tout à l'heure, de Jephté, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, et ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors, les médailles que le Seigneur distribuera, ce sera les médailles comme tout au début des JO, le dernier jour, on les remet. Et le dernier jour du Seigneur, c'est bien plus que la clôture des JO. Que chacun soit encouragé, les médailles à valeur éternelle, c'est le Seigneur Jésus qui les distribuera. Et il y en a beaucoup, il y en a qui sont prêtes pour chacun de nous. Amen. Prions encore. Merci Seigneur de nous rappeler que les héros, les champions de la Bible sont des hommes comme chacun d'entre nous. Et que tu n'attends qu'une chose, que nous soyons à ta disposition. Tu te sers de nous, Seigneur. Nous n'en sommes souvent pas conscients. Nous nous sentons faibles. Nous semblons vulnérables. Et nous voyons mal, Seigneur, l'image que tu as de nous. Tu attends que nous soyons simplement des ouvriers dans ta moisson. Et nous te demandons ta grâce, ta bénédiction sur chacun et que nous puissions discerner ce qui est devant nous, jour après jour. Amen.